Pour la deuxième partie de ce micro-rebelle hebdo, nous abordons la thématique du revenu de base. Je vous laisse donc avec Sarah.
Bonjour et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Nous nous apprêtons à parler du revenu de base. Alors avant tout, le revenu de base, c'est quoi ? C'est en lisant le magazine L'Inconditionnel, magazine qui parle exclusivement que de revenu de base, que j'ai découvert plein de nouvelles choses sur cette idée. Le revenu de base, c'est une proposition selon laquelle tout le monde touche une certaine somme d'argent, indépendamment du travail fourni. Cette idée est fondée sur trois critères, universel, individuel et inconditionnel. Mais il faut savoir que cette idée existe depuis des centaines d'années, et je suis sûre que certains d'entre vous connaissent son concepteur, Thomas More, oui, l'auteur du fameux bouquin « L'Utopie ». Celui-ci nous explique qu'il serait beaucoup plus intelligent d'assurer l'existence à tous les membres de la société afin que personne ne se trouve dans la nécessité de voler. D'autres personnes sont également de fervents acteurs de cette idée et ainsi se forment deux différents courants.
Donc en fait, depuis le XVIIIe siècle, il y a plusieurs courants et personnalités qui se sont emparés de l'idée du revenu de base. On remonte à peu près au XVIIIe siècle pour trouver les origines du revenu de base, mais néanmoins, il y a une différence de fond qui oppose ces différents courants. Donc on peut dire qu'il y a un courant qui s'ancre dans la tradition communiste et un autre qui s'ancre dans la tradition libérale. Alors l'origine, dans les deux cas, néanmoins, on peut considérer qu'il y a une rupture complète avec le dogme moral économique qui dit que seul le travail peut procurer un revenu. Que ce soit la tradition du côté la tradition entre guillemets, alors je mets des guillemets à mon communiste, ou la tradition libérale, et là je ne mets pas de guillemets, c'est quand même une rupture avec ce dogme-là. Donc en fait, on fait remonter l'origine de la première tradition. Alors on est plutôt sur le volet entre guillemets communiste. On remonte à Thomas Paine, qui est un philosophe américain qui est engagé dans les révolutions des deux côtés de l'Atlantique et qui a été auteur en 1797 d'un traité sur la justice agraire. Donc dans ce traité sur la justice agraire, il plaidait pour une indemnité liée à la pauvreté. Donc à cette époque-là, il explique que la réforme agricole subie par les paysans anglais conduit à l'appauvrissement des citoyens. Et en fait, il disait « sans revenu, point de citoyen ». Ça, c'est une phrase de Thomas Paine en 1792 à l'Assemblée nationale. À ce moment-là, la Révolution française venait d'éclater. D'accord ? Mais lui disait « la démocratie ne peut réellement fonctionner que si les citoyens qui la composent sont économiquement libres et disponibles pour la faire vivre ». Donc pas de démocratie si les citoyens ne sont pas libres et disponibles pour la faire vivre. Donc par rapport à la... Thomas Paine disait aussi que la dépossession, en fait, donc, devait être compensée par une allocation versée par l'État. Il invoquait le principe d'un patrimoine naturel commun et s'opposait à l'appropriation des terres par une minorité, expliquant qu'une inégalité devant la propriété reviendrait à nuire aux libertés individuelles. Et il a donc proposé de créer un fonds national pour payer à tous les individus qui auront atteint l'âge de 21 ans la somme de 15 livres sterling à titre d'indemnité du droit naturel dont le système des propriétés territoriales les a dépouillés.
Alors, est-ce que le revenu de base est une bonne chose ou pas ? C'est à cette problématique que se sont confrontés les décroissants du Pas-de-Calais en organisant un débat au LAG le 23 juin dernier au sujet du revenu de base. Pour ceux qui, comme moi, ne savaient pas vraiment ce que c'était les différents concepts, ce qu'étaient les différentes conceptions du revenu de base, pardon. Je vous propose d'écouter cet extrait du débat pour se faire une petite idée et une idée un peu plus précise avec certains des successeurs de ces grandes figures.
On est dans les successeurs de Thomas Paine et dans ses successeurs aussi, on trouve cité justement le texte que Olivier nous a fourni, Baptiste Milondeau et les objecteurs de croissance tels Paul Ariès, qui disent pour qui verser un revenu à chaque individu reviendrait à investir dans l'humain, lui permettant ainsi de rediriger sa force de travail vers une production locale ou le bénévolat plutôt que les grandes entreprises. Pardon. Donc Baptiste Milondeau dit « Oser déconnecter emploi et revenu conduit à reposer la question de l'utilité sociale, de la place de l'emploi dans la société, dans nos vies ». Donc ça, c'est les théoriciens... Et donc, on a l'autre côté, en fait. Donc après, il y a un certain nombre d'autres économistes qui sont cités dans cette veine-là. Et pour arriver aux militants du mouvement français pour le revenu de base. Et donc, on a l'autre partie, enfin l'autre volet, ce sont les partisans de la tradition libérale qui, eux, alors évoquent l'économiste américain Milton Friedman. Donc... Donc, Capitalisme et liberté, il a proposé pour éradiquer la pauvreté que tout individu riche ou pauvre se voit octroyer un crédit d'impôt dont le montant correspond au minimum vital. Ceux dont le revenu est élevé contribueraient par un impôt positif à financer un versement en cash, impôt négatif, à ceux dont le revenu est inférieur à ce minimum. Et donc, d'après Milton Friedman, le crédit d'impôt permettra à chacun de participer au marché du travail. Versé à tous, il n'est pas dissuasif, contrairement à la perte des allocations lorsqu'on reprend un travail.
Se pose donc la question du financement. Parce que c'est bien beau tout ça, mais l'argent, ça tombe pas du ciel. Hein.
Chez Milando, par exemple, lui, il explique bien clairement que ça repose aussi beaucoup sur la gratuité. C'est-à-dire que le revenu inconditionnel d'existence ou la DUA, dotation d'autonomie, elle comporte un volet monétaire, mais elle comporte aussi surtout un gros volet non monétaire qui est une redistribution gratuite de biens communs, comme l'eau, le transport, l'énergie, qui serait, dans les théories de Milando et d'Ariès et d'autres, démonétarisé, remis en service public et donné sous forme de gratuité. Donc ça vient aussi accompagner sur la dotation financière. Il y a deux dotations financières, une sous forme monétaire qui permet d'acheter des biens et une sous forme non monétaire qui est l'accès gratuit à des biens collectifs, à des usages communs. Et ça, c'est ce qu'on ne retrouve pas chez les libéraux, du tout.
Mais est-ce que tout ça n'est pas un peu trop facile ? C'est vrai que gagner de l'argent sans travailler, ça donne envie. Mais est-ce que c'est réellement viable ? En effet, certaines personnes pensent que le besoin d'accomplissement de soi est le besoin le plus important que peut ressentir l'être humain. Ça le pousserait donc à travailler malgré l'assurance du revenu de base. Mais est-ce que cela va être le cas pour tout le monde ? La question subsiste. Et est-ce que cela va permettre à tout le monde de faire bouger les choses ? La conditionnelle nous explique que le revenu de base peut permettre d'éliminer une partie de la pauvreté en utilisant et en partageant les richesses dédiées à une minorité. De permettre aussi une plus grande émancipation des femmes puisque le revenu de base est individuel. Ou encore d'améliorer le service de santé publique puisque plus de 50% des causes de maladie seraient économiques ou sociales. Beaucoup d'avantages donc, malgré ça, certaines personnes continuent de s'opposer au revenu de base, comme par exemple en jugeant cela trop facile et peu demandeur d'efforts de travail. Je vous propose pour finir cette émission d'écouter un extrait du livre de Baptiste Milando. Je vous laisse donc avec lui et je vous dis à bientôt.
L'oisif ira loger ailleurs, brève histoire du droit au travail. Une telle conclusion doit toutefois nous interpeller. Après tout, la défense du droit au travail a-t-elle vraiment sa place dans un projet progressiste de transformation sociale ? La question peut paraître saugrenue. Aujourd'hui, en effet, le droit au travail, inscrit, rappelons-le, dans la Déclaration des droits de l'homme et repris dans le préambule de la Constitution de la Ve République, est présenté comme une avancée sociale majeure et une victoire du mouvement ouvrier. Quelle erreur ! Pour éclairer cette question, sans doute faut-il revenir sur la nature, l'origine et la fonction du droit au travail. Le droit au travail est la consécration constitutionnelle de l'esprit capitaliste, de l'irrationalité économique, du travailler plus pour gagner plus. Une victoire du mouvement ouvrier ? Comment y croire encore ? Car enfin, comment expliquer l'avènement de ce droit au labeur ? Comment expliquer l'adhésion insensée des travailleurs à ce droit à la besogne ? Pourquoi se battre et arracher un droit au turbin quand on s'est battu plus tôt pour abolir la corvée et le travail forcé ? Ça n'a pas de sens. Vivre en travaillant, mourir au combat, lancer les canuts révoltés. Tout cela n'a pas de sens. Et qu'on ne parle pas d'émancipation, d'épanouissement dans le travail, ce ne sont là que mythes, illusions, des croyances réconfortantes qui restent curieusement très vivaces aujourd'hui. Faut-il rappeler ici la condition ouvrière au XIXe siècle ? Faut-il lire Louis-René Villermé, son triste tableau de l'état physique et moral des ouvriers, pour s'en convaincre ? Non, décidément, cela n'a pas de sens. En fait, ce n'est qu'en intégrant la condamnation de l'indigence et de l'oisiveté au tableau que la revendication ouvrière d'un droit au travail prend sens. À la fin du XVIIIe siècle, alors que le travail, sous la plume de l'économiste anglais Adam Smith, apparaît comme la source de la richesse, l'indigence et l'oisiveté sont perçues comme une perte pour la société. Un manque à gagner que les nombreux dispositifs de travail forcé, inefficaces pour la plupart, ne parviennent pas à compenser. Aux yeux des libéraux, la mise au travail de la société ne doit donc pas reposer sur le travail forcé, mais au contraire, s'appuyer sur la liberté de travailler. D'après eux, ce sont les corporations de métiers, les monopoles et les autres barrières sur le marché du travail qui empêchent les indigents et vagabonds de travailler. La suppression de ces monopoles et corporations doit donc permettre à ceux qui souhaitent travailler de trouver un emploi et de supprimer ainsi la mendicité et l'indigence involontaire. Le coup est rude pour les frelons oisifs, marauds, ribauds et autres indigents, car les mesures de police utilisées à leur encontre s'en trouvent légitimées. Désormais, en effet, toute indigence résiduelle ne peut être que volontaire. Un crime ? Ainsi, lorsque le Comité révolutionnaire pour l'extinction de la mendicité proclame la liberté de travailler en 1791, c'est en réalité le devoir de trouver un emploi qu'il impose à tous les individus valides. Le devoir aussi d'adhérer à l'esprit capitaliste, au nouveau contrat social tourné vers l'abondance et l'accumulation de richesses. Voilà ce qu'est le droit au travail, la droite l'a bien compris, la gauche aussi, malheureusement.